L'actualité de ce 21 avril, Lénaïque Monnier, Bernard Poiret.
Bonjour Lénaïque.
Bonjour Bernard, bonjour à tous.
La cathédrale Notre-Dame est sauvée, c'est le ministre de la Culture qui le dit.
Certes, il reste des gravats et un long travail de restauration, mais le pire est passé. L'édifice est sécurisé. Le 23e acte des Gilets jaunes, hier, moins de monde en général, mais plus à Paris pour cette dernière mobilisation avant la conférence de presse d'Emmanuel Macron. On verra ce qu'espèrent les Gilets jaunes de ces annonces. Et puis, une success story à la française, celle de Keolis, filiale de la SNCF qui cartonne à Boston.
Notre-Dame, quasiment sauvée. C'est le ministre de la Culture, Franck Riester, qui l'a déclaré hier, de quoi mettre bien sûr du baume au cœur des croyants ce dimanche de Pâques.
Cette annonce a été faite alors que se tenait hier soir un grand concert aux Invalides pour aider au financement de la restauration de la cathédrale. Les artistes se sont bousculés pour apporter leur pierre à l'édifice. De Voulzy à Pietragala, de Mireille Mathieu au Petit Chanteur à la Croix de Bois. Des dizaines d'artistes sont montés sur scène 6 jours après l'incendie. Le pire est donc derrière Notre-Dame, Franck Riester.
Notre-Dame aujourd'hui est dans ce qu'il reste quasi sauvé, puisque tous les points sensibles qui restaient, le pignon nord, le pignon occidental entre les deux beffrois en façade de Notre-Dame de Paris, le beffroi sud qui menaçait, tous ces points-là ont été sécurisés, stabilisés, et c'est une formidable nouvelle. Il y a quelques points encore sensibles sur la voûte, et donc les équipes du ministère de la Culture, les équipes, les entreprises sont à l'œuvre pour retirer les gravats qui sont actuellement sur la voûte encore et bâcher progressivement la voûte. Et à partir de ça, on pourra dire que Notre-Dame de Paris est sauvée, restera maintenant à la rebâtir, à la restaurer. Donc continuez à donner pour la restauration de Notre-Dame de Paris.
Franck Riester, ministre de la Culture, et justement près de 20 millions d'euros de dons ont été enregistrés par la Fondation du Patrimoine, en plus des dons des grandes fortunes. La cathédrale sauvée, mais la messe de Pâques à Paris ne s'y tiendra évidemment pas. Elle sera célébrée ce matin à 11h en l'église Saint-Eustache dans le quartier des Halles.
Le pape, pour sa part, va s'exprimer aussi aujourd'hui depuis Saint-Pierre de Rome pour la bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville et au monde.
Ou un mot pour Notre-Dame sera vraisemblablement prononcé. Le pape qui pourrait par ailleurs venir en France. C'est en tout cas le souhait d'Emmanuel Macron, le président de la République, à renouveler son invitation. Virginie Riva.
Le pape viendra en temps voulu. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron jeudi à l'Élysée lors de la réception en hommage aux pompiers intervenus à Notre-Dame, rappelant qu'il avait invité le pape lors de leur entretien téléphonique de mardi. Invitation réitérée hier par l'intermédiaire de son ministre Jean-Yves Le Drian, présent à Rome. Il a remis au Vatican une lettre rédigée par Emmanuel Macron. Du côté du Vatican, on confirme que l'incendie de la cathédrale et l'émotion mondiale qu'il a suscité ont interpellé le Saint-Père. Certains, dans son entourage, lui ont même conseillé de venir tout de suite pour retisser le lien avec les catholiques français distendu après sa gestion de l'affaire Barbarin. Reste un obstacle diplomatique, la question de l'ambassadeur du Vatican en France, le nonce, mis en cause par la justice française pour des faits d'agression sexuelle. Le nonce qui a décidé de se rendre de lui-même à une audition de la police judiciaire début avril, alors que le Vatican n'a toujours pas levé son immunité diplomatique. Si le Vatican l'acceptait, il pourrait être mis en examen. Dans ce cas, un nouveau nonce pourrait être nommé d'ici à l'été, seule condition pour que la venue du pape soit possible.
Virginie Riva pour Europe 1 et on apprend ce matin qu'au Sri Lanka, 80 personnes ont été blessées. Il y a eu 6 explosions qui ont touché 2 églises mais également des hôtels. Il s'agit pour la plupart de fidèles qui assistaient à la messe de Pâques.
Nouveau week-end de mobilisation pour les Gilets jaunes, le tout dernier avant la prise de parole jeudi d'Emmanuel Macron.
Et d'ailleurs, cet acte 23 était présenté comme un ultimatum. Pour ce week-end, moins de monde globalement, à peu près 28 000 personnes. Le ministère de l'Intérieur note une baisse sur l'ensemble du pays, mais une hausse à Paris. 9 000 personnes rassemblées dans la capitale où des affrontements et des dégâts sont à signaler, notamment place de la République. Comment les manifestants ont vécu ce 23e acte? C'est Jean-Bastien Soldaini qui nous le dit.
Un peu déboussolé au milieu des derniers manifestants et des derniers tirs de gaz lacrymogène, Cécile observe la place de la République se vider. Venue de La Roche-sur-Yon pour participer à ce rassemblement, elle se dit « encore un acte 23, et puis quoi ?»
Et puis rien, on continue, on lâche rien. On nous donne soi-disant peut-être un RIC régional, mais ça, on n'a pas de problème dans nos régions. Nous, on a des problèmes avec l'État. On est toujours encore là et encore plus fort. Et si on est là depuis le 17 novembre, on lâchera rien.
Il y aura des annonces jeudi, vous en attendez quoi ?
Moi, j'en attends rien, je suis sûr qu'on n'aura rien.
Un peu plus loin, Jean fait le tour des dégâts, les vitrines cassées, les dégradations. Il ne cautionne pas, mais il considère que c'est en maintenant la mobilisation que le président va peut-être lâcher du lest sur les annonces à venir.
Un mouvement, c'est pas en une journée, aujourd'hui, le 20 avril, et que vous allez obtenir le RIC. Mais c'est dans la continuité que le politique, le gouvernement, va finir par prendre en compte les aspirations des Gilets jaunes. On a déjà initié beaucoup de choses grâce à ces mouvements. Il y a eu des avancées sociales, il y a également des avancées politiques, parce qu'il y a eu un grand débat. Ça change, oui.
Ça change, mais il s'attend à un acte 24 qui se profile et qui sonne comme un éternel recommencement.
Jean-Sébastien Soldaini pour Europa. Parmi les mesures annoncées sans doute jeudi, la suppression de l'ENA, la réindexation des retraites, mais aussi sur le tapis, la durée du temps de travail. D'après un baromètre IFOP pour le journal du dimanche ce matin, vous êtes pourtant 54% de Français à être en désaccord avec cette proposition.
Restez avec nous, dans un instant nous parlons de la SNCF qui, tout de même, malgré l'énormité de sa tâche, parfois réussit des choses remarquables. Une de ses filiales, notamment, connaît une véritable success story aux États-Unis, à Boston.
Europe 1, il est 7h06.
6h, 9h, Bernard Poirette sur Europe 1.
L'actu continue avec Lénaïque Monnier et Bernard Poirette.
Vous savez, Lénaïque, que c'est un sport national que de critiquer la SNCF. N'empêche que la SNCF réussit des choses remarquables. Par exemple, elle exporte avec succès son savoir-faire aux États-Unis.
Avec sa filiale Keolis, dont les résultats annuels viennent d'être publiés, le chiffre d'affaires a progressé de 10% en un an, le tout grâce à des activités à l'international, des marchés remportés aux Pays-Bas, au Pays de Galles, pardon, en Chine ou au Qatar, aux États-Unis, à Boston. Keolis affrète des trains de banlieue depuis 2014. Il y a eu des débuts très compliqués, mais aujourd'hui, la situation est rétablie. Reportage d'Aurélien Fleureau.
Un taux de ponctualité qui dépasse 90% depuis le début de l'année, une fréquentation qui a augmenté de 22%, impensable en 2014 quand Keolis a remporté le marché. Il a fallu importer de nouvelles techniques de management et puis surtout redonner envie aux Américains de prendre le train, explique Clément Michel, directeur Amérique du Nord chez Keolis.
Donc là, on fait du marketing, on fait de l'approche directe client qui, dans le pays de la voiture reine, n'est pas simple. Mais on montre maintenant qu'on est capable d'attirer des gens au ferroviaire alors qu'ils avaient abandonné cette solution depuis des décennies.
Moderniser des réseaux qui font penser quand on les voit à ceux des trains régionaux français d'il y a 20 ou 30 ans, c'est aussi l'autre gros challenge pour les équipes de Keolis.
On a beaucoup travaillé sur le digital, même dans des vieux trains comme celui dans lequel nous sommes actuellement. On met des capteurs sur tous les trains pour pouvoir se lancer dans de la maintenance prédictive. Ça va nous faire des économies qui vont nous permettre de réinvestir dans le réseau pour du nouveau matériel roulant à une échelle. À déterminer.
De nouveaux trains pour augmenter les fréquences de passage toute la journée et enfin faire évoluer un système américain toujours pensé pour les commuters, ceux qui font la navette domicile-travail matin et soir. Boston, Aurélien Fleureau, Europe 1.
On reste à l'étranger avec l'ouverture à l'instant même, il y a 9 minutes, des bureaux de vote en Ukraine. C'est le second tour de l'élection présidentielle en Ukraine et selon toute probabilité, ce soir, le nouveau président ukrainien s'appellera Vladimir Zelensky. Il devrait battre Petro Poroshenko, le sortant. Il est crédité de 70% d'intention de vote. Et s'il gagne, eh bien sachez que le nouveau président de l'Ukraine est un comique extrêmement connu dans son pays, est une véritable vedette à la télévision. Et s'il gagne, eh bien prochainement, il pourrait être reçu donc à ce titre à l'Élysée par le président Macron. Plus, comme chaque week-end, nous vous emmenons au cinéma. Le coup de cœur cinéma de Mathieu Charrier aujourd'hui, c'est un polar qui nous vient des Philippines.
Alphaz The Right to Kill, qui nous plonge dans les rues de Manille, un film du réalisateur Briante Mendoza, qui nous est conseillé par Mathieu Charrier.
Les meilleurs polars sont ceux qui décrivent un pan de la société, et c'est le cas de cet Alpha The Right to Kill, qu'on pourrait traduire par le droit de tuer. Il raconte l'histoire d'un flic corrompu et de son indic, impliqué dans un trafic de stupéfiants au cœur de la capitale des Philippines. Briante Mendoza a réalisé ce film alors que le président Rodrigo Duterte entamait sa campagne d'extermination des trafiquants de drogue. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Montrer comment le pouvoir a tué, sans autre forme de procès, des Philippins accusés de trafic de drogue. 7000 exécutions, selon les chiffres officiels, le double pour les organisations de défense des droits de l'homme. Alors le film nous emmène dans les dédales de Manille, où l'on ne sait plus très bien qui sont les gentils ou les méchants, les flics corrompus ou honnêtes, les trafiquants de drogue violents ou les autres qui dealent pour pouvoir offrir du lait à leur bébé. Alpha est un film tout en nuances qui a reçu le prix du jury au dernier festival du film policier de Beaune.
Et Briante Mendoza, lui, a été nommé chevalier des arts et des lettres par le président de la République.
À 7h11, on s'intéresse maintenant au sport avec Lénaïque Monnier.
Oui, on commence par le football. Ligue 1, Trois fois ces trois dernières semaines, le PSG a espéré être champion de France. Bah écoutez, ce sera peut-être ce soir.
Il faudrait se libérer l'esprit, évidemment, avant une semaine importante, puisque samedi prochain, il y aura aussi la finale de la Coupe de France face à Rennes. Un PSG qui reste sur deux défaites, effectivement, et un nul, et qui avance à tâtons en ce moment, comme nous l'explique le consultant d'Europe 1, Alain Roche.
L'entraîneur du Paris Saint-Germain ne le sait pas, puisque ses joueurs ont semblé résignés face à Nantes, n'ont pas eu le bon comportement, et lui l'a signalé, il n'a pas pu défendre ses joueurs comme il le fait habituellement après le match. J'ai senti extrêmement nerveux suite à la défaite face à Lille, où il a montré du doigt ses dirigeants. Il n'a pas peut-être l'effectif qu'il a souhaité, mais il y a beaucoup d'entraîneurs en France qui aimeraient quasiment avoir les mêmes joueurs qu'il a à sa disposition. Je pense qu'à un moment, il ne faut plus parler, ou si on parle, c'est dans un bureau. Et il est sous contrat, il vient de prolonger son contrat, donc à un moment, il faut respecter l'institution et les dirigeants qui la constituent.
Alain Roche avec Cyril de la Morinerie. J'ajoute que Paris rend hommage ce soir à Notre-Dame de Paris. Le nom de la cathédrale sera floqué à la place de celui des joueurs. Il y en aura également 1000 à vendre. Ils vont coûter 100 euros et tout l'argent récolté ira aux bonnes œuvres des pompiers.
La France et la Roumanie sont au coude à coude en demi-finale de Fed Cup. C'est du tennis.
Simona Halep pour la Roumanie, Caroline Garcia pour la France. Elles ont toutes les deux remporté leur match. Autant dire que leur face-à-face cet après-midi sera déterminant. Caroline Garcia le sait très bien.
C'est une fille qui est numéro 2 mondiale et qui est solide sur terre battue et sur les autres surfaces. Donc évidemment, il n'y a pas de surprise de l'avoir évolué à ce niveau-là. Si le capitaine me fait confiance, je serai prête à jouer et à donner mon maximum. Mais évidemment, c'est une joueuse solide qui a peu de points faibles, donc il faut être performante.
Et du coup, vous espérez un long dimanche ?
Évidemment, ça peut être un des scénarios possibles que le double soit décisif, avec toute la tension qu'on connaît. Donc évidemment, si la journée s'allonge, nous serons toutes prêtes.
Caroline Garcia au micro Europe 1 de Corinne Boulou.
Et en cyclisme, nous quittons les Flandres pour les Ardennes.
Avec l'Amstel Gold Race aux Pays-Bas aujourd'hui, qui sera suivi de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Trois nouvelles occasions pour Julien Alaphilippe, auteur d'un bon début de saison, de briller Axel May.
Même la lourde chute dont il a été victime voici 10 jours autour du Pays Basque à 60 km/h semble à peine avoir marqué Julien Alaphilippe. Mercredi, pour sa course de reprise, le Montluçonnais est passé tout près de la victoire sur la Flèche Brabançonne, seulement battu par l'un des grands noms en devenir, Mathieu Van Der Poel, petit-fils de Pouli d'Or. Ici chez lui, aux Pays-Bas, Van Der Poel sera l'un des favoris de l'Amstel Gold Race avec Julien Alaphilippe. Certes, l'arrivée ne se fait plus juste après le Mont Coberg, un choix des organisateurs pour renouveler la course, mais Alaphilippe, le puncher, même sans une montée casse-patte dans le final, sait qu'il peut aussi compter sur sa pointe de vitesse en cas d'arrivée groupée. La dernière fois qu'un Français a remporté l'Amstel, c'était un certain Bernard Hinault en 1981. Maastricht, Axel May Europe 1.
Et parmi les favoris, on n'oublie pas non plus Philippe Gilbert ou encore Michael Matthews et bien sûr Peter Sagan.
Merci beaucoup, c'était Lénaïque qui présentait ce journal donc de 7h. Elle revient à 8h. A tout à l'heure Lénaïque.
Vous êtes avec Bernard Porrette à 7h15 sur Europe 1.
Et voici la note hippique de notre confrère Bruno Diel du journal Paris Turf. Bruno, bonjour.
Bonjour Bernard.
Bruno, le Quintet, c'est à Auteuil cet après-midi. On y va avec vous, bien sûr, dans un instant. Mais d'abord, parlons des faits marquants de ces derniers jours dans la planète cheval. Qu'avez-vous noté ?
Vous vous souvenez, Bernard, que dans cette chronique, samedi dernier, nous avons évoqué les adieux en compétition de la fabuleuse jument australienne Winx ?
Oui.
Eh bien, la reine, en s'imposant magistralement à Sydney, n'a pas manqué son grand départ. Et les 42 000 fans venus la supporter l'ont longuement ovationnée. Winx est devenu le pur sang le plus riche du monde, avec 26 millions de dollars australiens, soit près de 17 millions d'euros amassés en course. Une autre championne, japonaise cette fois du nom de Almond Eyes, qui devait participer au prix de l'Arc de Triomphe, va finalement décliner la lutte. Rentrée fatiguée de son déplacement victorieux à Dubaï, son entourage préfère la ménager et renoncer à la France. Mmh. Les poulains et poulisses de 3 ans se préparent pour les grands rendez-vous du printemps. Et la casaque bleue de Sheikh Mohamed a encore brillé récemment à Longchamp. Chez les femelles, Castle Lady, invaincue, a balayé l'opposition. Chez les mâles, une étoile née, retenez son nom, Persian King. Il a enthousiasmé les observateurs et il se destine à une grande carrière.
Persian King.
Enfin, pour conclure, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame a bouleversé le monde des courses qui s'est mobilisé tout entier. Dès le lendemain, décision a été prise de rebaptiser le Quintet du jour, le traditionnel prix du président de la République, prix Notre-Dame de Paris. L'intégralité des bénéfices engendrés par les paris sera reversée à la souscription nationale ouverte en faveur de la cathédrale.
Et alors, ce prix Notre-Dame de Paris, justement, qui sert de support au Quintet, est prévu vers 15h15 à Auteuil. Il sera couru sur 4700 mètres sur le steeple. Qui recommandez-vous ?
Accentus, le numéro 3, a été préparé pour cet objectif. Il aura des partisans convaincus. Chep de Kervignou, le 18, porte un tout petit poids et cela peut l'aider dans son entreprise.
Le 3 donc et le 18, les favoris de Bruno Dial pour ce quintet cet après-midi à Auteuil, rebaptisé Prix Notre-Dame de Paris. Je vous rappelle qu'il y a 19 chevaux au départ. Valérie Darmon, quel est le programme météo pour aujourd'hui ?
Alors, la douceur présente dès ce matin qui se transforme en chaleur cet après-midi au nord de la Loire avec 22 à 27 degrés, le maximum en région parisienne. Les régions méridionales ne dépassent pas en général 18 à 22, sauf localement 25 à Ajaccio, à cause des nuages, puisque le sud est quand même davantage nuageux que le nord, qui est évidemment plein soleil, avec du vent qui va se lever en fin de journée aussi. Prudence entre Corse et continent et qui va se renforcer au fil de la nuit prochaine.
Par SMS à l'instant, Mila qui est à Agen me dit que le soleil commence à pointer le bout de son nez. Ça devrait être quand même assez bâché aujourd'hui. Hein. Du côté d'Agen, il fait 10 degrés. Passez un très bon dimanche, Pascal, Mila, là-bas à Agen. Vous avez peut-être du tweet également.
Phil nous dit sur l'hashtag Europe 1. Bonjour les amis du week-end, bon dimanche de Pâques. Il fait déjà presque 13 degrés dans notre belle vallée de Chevreuse.
Très bien, super. Bienvenue si vous prenez en marche cette matinale d'info, dans 4 minutes après les titres de l'actualité, le scientifique Alain Sirou, de retour, le Vénard, de retour d'Hawaï. Imaginez-vous, il est allé là-bas écouter le cœur battant des volcans. Et au-delà, le mot de la semaine avec Bernard Fripia, cathédrale, bien entendu.
Merci de nous écouter sur le 94.6 à Colmar. Il est 7h18.
6h, 9h. Toute l'info du week-end avec Bernard Poirette sur Europe 1.